Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On se dit tout. Chaque jour, on choisit un thème qui vous concerne. Chaque jour, vous venez apporter votre témoignage. Et aujourd'hui, c'est la pub qui va donner le ton.
Ah, savez-vous messieurs que notre ami Guy de Graines, levez-vous, a le plus beau palmarès de sa classe. Prix de gravure sur les tables, bien entendu. Prix de dessin sur les murs et sur ses cahiers.
Mon pauvre Guy de Graines, c'était pas comme ça que vous réussirez dans la vie.
Et pourtant, il a bien réussi, le petit Guy de Graines, c'est vrai. Alors, on va parler non pas de vaisselle ni de pub, mais bel et bien d'école, et plus particulièrement d'échecs scolaires aujourd'hui. Avec vous qui avez galéré à l'école, avec vous qui avez très vite décroché, avec vous qui avez essayé de vous accrocher pourtant. Et puis, on peut aussi parler de vos enfants qui sont peut-être dans ce cas en ce moment. Des enfants qui n'aiment pas l'école, qui ne comprennent pas ce qu'on leur demande, qui ont redoublé déjà plusieurs fois. 0810 055 056 pour nous rejoindre. Et puis, j'espère aussi que nous aurons d'anciens cancres, d'anciens décrocheurs qui ont réussi leur vie professionnelle. Un peu comme notre grand témoin Arash Derambarche, auteur du livre « Tomber 9 fois, se relever 10 » aux éditions du Cherche Midi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Vanessa Lambert.
Votre histoire, c'est celle d'un petit garçon qui adorait l'école quand il était petit et qui a découvert l'enfer de l'école à l'arrivée au collège. Vous avez redoublé 9 fois, vous n'avez pas eu votre brevet des collèges, vous avez raté le bac la première fois, la fac, ça a été une catastrophe. Et puis aujourd'hui, vous êtes avocat comme vous le voulez. Quand vous étiez petit.
Oui, c'était un rêve d'enfant que j'ai voulu réaliser. C'était pas facile. J'ai eu un parcours scolaire chaotique, mais j'étais focalisé sur mon objectif. Et le jour de ma prestation de serment, il y a quasiment un an, j'ai pleuré.
Bah oui, forcément. Ça a été long.
Ça a été long, mais encore une fois, vous ne voyez pas le temps passer lorsque vous êtes focalisé sur votre objectif. Je me suis pas laissé intimider ou influencer par les propos des uns ou le découragement des autres. Et je me suis dit, voilà, je veux devenir avocat et j'y arriverai coûte que coûte.
L'échec n'est pas synonyme de défaite et on va en parler avec vous qui nous écoutez, qui l'avez vécu, qui le vivait en ce moment. Appelez-nous dès maintenant sur France Bleu.
Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
Chaque année, 150 000 jeunes quittent l'école sans diplôme. Souvent, du collège au lycée, les notes sont en chute libre, les appréciations humiliantes et avec le sentiment de ne pas vraiment être à sa place, de ne pas être fait pour l'école. Avec un petit peu de recul, vous qui avez connu ça, comment vous expliquez ce décrochage scolaire? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas su vous aider? Est-ce que l'éducation nationale, telle qu'on la connaît chez nous en France, est vraiment adaptée à tous les enfants? On se dit tout, vous donne la parole aujourd'hui au 0810 055 055. Avec vous, ancien cancre de la classe, comme on disait, ou avec vous, parents dont l'enfant éprouve aujourd'hui de véritables difficultés à l'école. Notre grand témoin a connu tout ça aussi, champion du monde du redoublage, éternel dernier de la classe, et pourtant, ça ne l'a pas empêché de faire de la politique et de devenir avocat. Arash Derambarche est notre grand témoin aujourd'hui sur France Bleu. On voit bien dans votre livre, dans votre parcours, que quand vous étiez petit, ça se passait bien, l'école, vous aimiez ça, il y avait même énormément de plaisir, et puis arrive le collège où là, ça a été vraiment le drame.
Vous avez absolument raison. L'école primaire, pour moi, était une période, même la maternelle. Et c'était deux périodes, en fait, pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection parce qu'il y avait les maîtresses et les maîtres. Et je recevais beaucoup de bienveillance, de chaleur humaine. Je raconte, en fait, qu'en maternelle, par exemple, j'apprends le français alors que je parle que persan. Et les maîtresses me parlent en français et elles ne me jugent pas, elles sont toujours bienveillantes, elles sont toujours là pour m'élever intellectuellement, humainement. C'est pareil en école primaire, je cite d'ailleurs les prénoms de mes maîtresses,
mes maîtres. Oui, avant c'est plus dur en maternelle, vous dites je ne me rappelle pas des noms, mais par contre vous aviez envie de donner les noms.
En réalité en maternelle, je ne me rappelle pas des noms, mais je me rappelle de l'émotion que ces personnes ont pu dégager. Et ces émotions-là, je les ai intégrées en moi. Mais c'est vrai qu'en école primaire, je rends hommage à toutes ces maîtresses et ces maîtres qui m'ont fabriqué en réalité. Chacun représente une brique de la personne que je suis devenue. Et puis arrive le collège, où là, en fait, on est dilué dans des classes qui sont beaucoup plus nombreuses. On a 6 ou 7 professeurs. Et donc, on n'est plus le chouchou de sa maîtresse. Mmh. Le maître est remplacé par le professeur. Et qui se rappelle de votre prénom au bout de 6 mois. Mmh. Et donc la réalité en fait, c'est qu'on n'a plus cette relation, on va dire, qui est humaine, chaleureuse, bienveillante. Et on ne devient plus en fait un élève, on est ce qu'on appelle une comptabilité pour le collège ou pour les professeurs.
Alors sans taper sur tous les professeurs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, notamment votre prof de français qui vous a tendu la main à un moment donné.
Oui, bien sûr. Je généralise pas évidemment, je parle d'un système qui est malveillant. Pourquoi il est malveillant ? Je ne veux pas taper évidemment sur le système parce que les professeurs sont tous formidables quand vous les prenez tous un par un. Mais en réalité, ce système fait que vous ne pouvez pas avoir un parcours personnalisé si vous ne forcez pas le destin dans le système de l'éducation nationale française. Et évidemment, je rends hommage à trois professeurs de français. Donc c'est M. Fèvre en quatrième, c'est Mme Guillaume en seconde et Mme Bataille en première. Ces trois professeurs m'amènent vers la littérature française. J'ai appris Jules Vallès, Victor Hugo, Nicolas Gogol. Ce sont des profs qui m'ont dit que je pouvais y arriver. Qui m'ont dit que voilà, je n'étais pas un incapable ou un idiot, un cancre ou un âne, mais que je pouvais avoir les capacités, les compétences pour atteindre mon objectif.
Et puis vous êtes ultra touchant aussi quand vous allez voir les résultats du brevet des collèges, par exemple, vous cherchez votre nom, vous dites « mince alors, j'ai pas mon nom » et c'est un copain de classe qui dit « mais cherche pas, c'est juste que tu l'as pas ». Et vous, vous y croyez toujours en fait, finalement, même dans cet échec scolaire, vous y croyez toujours.
Alors ça c'est l'anecdote, c'est pour le bac.
Ah c'est pour le bac, pardon.
C'est pour le bac, il n'y a aucun problème, parce que de son le brevet, je vous l'ai donné, l'anecdote est très simple, c'est qu'au lieu de donner les noms de tous ceux qui l'ont, on donne le nom de celui
qui
ne l'a pas. En l'occurrence, il n'y en a qu'un qui ne l'a pas, et c'est moi. Et mon nom, en fait, pour le brevet des collèges en troisième, est placardé sur le plexiglas du collège Georges Pompidou à Courbevoie. Et donc, pendant tout l'été, toutes les personnes qui passent sur la rue Victor Hugo à Courbevoie voient le nom de celui qui a échoué, c'est-à-dire moi. Et pour le baccalauréat, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, on met le nom, effectivement, de tous les élèves qui ont obtenu le bac. Et moi, arrogant comme j'étais, j'avais l'audace d'aller chercher d'abord mon nom dans la mention très bien, et puis mention bien, mention passable.
Et puis je vois pas mon nom. Rattrapage.
Et puis je suis pas du tout au rattrapage, et je fais ça pendant une heure, je cherche mon nom. Et puis j'ai une copine qui vient, Olivia, et elle me dit, s'il n'y a pas ton nom, c'est que tu l'as pas. Mais de façon très cruelle, très froide. Et donc du coup, voilà, c'est là où j'apprends que j'ai pas mon bac. Je vais pleurer, mais 30 secondes après... Dans ma tête, 30 secondes après, je me remets en mode opération commando. Je me dis, voilà, je veux devenir avocat, comment je peux faire pour y arriver ?
Eh bien, on en parle aussi avec vous, vous qui l'avez vécu comme notre grand témoin, cet échec scolaire, ce décrochage scolaire, ou qu'il vivait en ce moment avec vos enfants. Appelez-nous au 0810 055 056.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Et on parle aujourd'hui de l'échec scolaire dans On se dit tout avec vous, qui l'avait vécu ou qu'il vivait en ce moment avec un de vos enfants. On essaye de voir comment ça commence, quels sont les premiers signes. Souvent, ce sont soit des enfants très renfermés sur eux-mêmes ou très agités, voire même assez violents dans la cour, un petit peu pour se faire remarquer. Mais le manque de motivation est là, les notes ne suivent pas, il y a des profs à l'écoute et puis il y a ceux qui ne cherchent pas toujours à comprendre. Manque de soutien, sentiment d'être abandonné, ça vous parle vous aussi. 0810 055 056 pour venir nous en parler et puis pour redonner espoir aussi aux parents ou aux enfants qui nous écoutent. C'est pas une fatalité, on peut rater sa scolarité et réussir sa vie professionnelle ensuite. La preuve avec notre grand témoin Arash Derambarche, avocat dans la politique, impliqué aussi, pas politique, c'est pas votre métier, mais voilà, vous êtes un peu en politique. Et puis vous racontez votre histoire dans le livre « Tomber 9 fois, se relever 10 » aux éditions du Cherche Midi. On part tout de suite en Loire-Atlantique rejoindre Jules. Bonjour Jules.
Bonjour.
Ça n'a jamais été votre truc vous aussi l'école, hein ?
Non, pas trop, non, j'ai jamais été très très scolaire. J'avais toujours la moyenne, quoi, j'ai jamais été en dessous ou quoi, mais ça m'a jamais trop intéressé.
Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que à force de pas trop m'intéresser, les profs se sont pas non plus intéressés à moi. Et en dernière année de lycée, donc en terminale, j'ai été viré du lycée, quoi.
Ah ouais, carrément.
Ouais.
Et pour quelle raison finalement ? Qu'est-ce qu'on vous a viré,
voilà,
pour quoi ?
J'étais en bac pro commerce et puis en fait ça me plaisait plus, quoi. J'allais plus beaucoup en cours. Quand j'y allais, j'écoutais pas vraiment. J'étais un peu déconnecté, mais ils ont pas non plus cherché à comprendre le pourquoi, quoi. Et du coup, après, en fait, de là, je me suis dit, quand même, ça fait 3 ans, enfin 2 ans de lycée pour aboutir à rien. Je me suis dit que j'allais quand même passer mon bac en candidat libre. Et j'ai eu.
Bravo.
Ouais.
Faut du courage quand même, hein, pour s'y mettre tout seul, pour ouvrir les bouquins tout seul à la maison.
Bah, il fallait du courage, ouais, mais c'était surtout une revanche, en fait, un peu que je voulais prouver, quoi.
Là, il y a un vrai parallèle avec vous, quand même, Arash. Ce côté, je vais y arriver, je vais prouver à tout le monde que je suis capable de le faire, quitte à bosser tout seul à la maison et de me donner un petit coup de pied quand même aux fesses, comme l'a fait Jules. Hein.
Bonjour, Jules.
Bonjour.
Et vous travaillez donc chez un vigneron maintenant ?
Ouais, c'est ça. Du coup, après le bac, après que j'ai passé mon bac, j'ai décidé d'aller travailler. Et notamment, je voulais travailler dehors.
C'était votre objectif de travailler chez un vigneron ?
De quoi ?
C'était votre objectif et votre rêve ?
Mon rêve, je sais pas, non, parce que j'étais un peu perdu aussi, mais je suis tombé amoureux de la vigne, ouais.
Bravo. Mais en tout cas, vraiment, chapeau et respect.
Et cette envie, merci. Surtout, on l'entend, vous saviez que vous vouliez travailler en extérieur. Là, c'était important,
c'était,
pour vous.
Ouais, c'était le principal pour moi, ouais.
Mmh, mmh. Et à un moment donné, est-ce que vous avez pu revoir certains professeurs de terminale ?
Non, pas encore. C'était ce week-end avec mes anciens camarades de classe. On a dit qu'on aimerait bien aller les revoir. Mais j'ai pas vu. Hein. Enfin, si, remarque, je vais vous dire, j'ai voulu aller chercher mon diplôme au lycée. Et les profs n'ont pas voulu me le donner. Il fallait que j'aille le chercher au restaurant.
Ah ouais, d'accord, sympa. Ouais. Sympa jusqu'au bout quand même, vos profs, là.
Ouais.
Non, alors, ce qui est intéressant dans votre témoignage, on voit bien, Jules, et vous l'avez dit, à un moment donné, je m'y intéressais tellement pas à l'école qu'on s'intéressait plus à moi. Ouais, ça aussi, ça peut être dangereux.
Il faut de la bienveillance, il faut s'intéresser aux enfants. C'est la jeune génération qui va construire le pays de demain. Si vous ne vous intéressez pas aux enfants, si vous n'écoutez pas leurs préoccupations, leurs rêves, on ne pourra pas construire une société qui est stable et saine. Moi, je suis allé par exemple dans la ville de Malmö, il y a 20 élèves, un cours qui dure une heure. Sur une heure, il y a 20 minutes où on fait l'appel. 20 minutes, on fait l'appel. On prend un élève, donc il y a 20 élèves. Chaque élève vient au tableau et le professeur lui dit « Bravo Magnus, c'est super, continue, tu vas progresser à l'écriture, tu vas progresser à l'oral, on compte sur toi, continue. » Voilà. Ici, quand bien même l'élève a 15 sur 20, on lui dit toujours il y a du bavardage, peut mieux faire, insuffisant. C'est pas comme ça qu'on élève les enfants. Et Jules, qui dès le départ avait ses objectifs et ses rêves, et d'ailleurs, j'imagine que lui-même, comme moi, on lui avait fait écrire sur un petit papier qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard. Et ben, en fait, on ne prend pas en compte tout ça. Moi, je pense vraiment qu'il faut personnaliser les parcours avec beaucoup de bienveillance et dans un circuit qui soit personnalisé. C'est possible à faire. Quand on dit que c'est impossible, c'est par fainéantise.
Jules, merci d'avoir été avec nous.
Si
vous faites le plus beau métier du monde, parce que vous êtes dans le vignoble nantais, voilà. Vous faites du muscadet aujourd'hui.
Oui,
eh ben voilà, la vie est belle. À consommer avec modération, évidemment. Je vous embrasse, Jules. Merci d'avoir été
avec
nous. Au revoir.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
Être nul en maths n'est pas une fatalité, mais pour certains élèves, c'est vraiment très compliqué quand les difficultés s'accumulent et que les notes s'en font ressentir. Redoublement, plus envie d'aller en cours, repli sur soi, voire même décrochage scolaire. Ça concerne de plus en plus de jeunes et chaque année, ils sont même 150 000 à sortir du système scolaire sans aucun diplôme, souvent au moment de la troisième ou de la seconde. On en parle aujourd'hui sur France Bleu et on se dit tout. À votre avis, qu'est-ce qui fait que l'école n'était pas faite pour vous ? Avec du recul, si vous aviez pu changer quelque chose, ça aurait été quoi ? Est-ce que des professeurs vous ont aidé quand même ? Venez en parler avec notre grand témoin, Arash Derambarche, auteur du livre « Tomber 9 fois, se relever 10 » aux éditions du Cherche Midi. Et nous sommes maintenant chez Catherine en Dordogne. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour France Bleu. Je suis ravie qu'il y ait cette émission. Ça va pouvoir, ça va me permettre de témoigner un petit peu sur ce que j'ai vécu et subi pendant toute ma scolarité et même au-delà.
Ça a été compliqué pour vous aussi, Catherine ?
Ça a été même traumatisant parce que depuis les plus petites... Alors, il faut que je dise l'âge. J'ai 62 ans. Je suis toute jeune retraitée. Et depuis les plus petites classes, j'ai toujours été en échec scolaire jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours subi du harcèlement, mais de la part des professeurs.
Quand vous parlez de harcèlement, vous parlez de quoi, Catherine ?
Alors, disons que à travail égal avec mes collègues, mes notes étaient toujours inférieures. Pendant les récréations, il y en avait toujours qui rentraient en classe pour écrire ce qu'on appelait des gros mots à l'époque au tableau. Mais forcément, quand on rentrait, c'était forcément moi, donc j'étais punie. Chaque fois qu'il y avait des bêtises de fête, c'était toujours moi que ça retombait. Voilà. Et puis les professeurs, c'est vrai, me collaient toujours dans un coin. Et ça...
On vous a pas laissé votre chance, en fait, à aucun moment.
Non, non, si j'avais de mauvais résultats à répétition, je veux dire, ça n'interpellait ni les professeurs, ni mes parents. Voilà. Et donc, ben, j'avais ni envie d'aller à l'école, ni envie de retourner chez moi, parce que de parler à mes parents du problème ou du harcèlement que je subissais, j'en avais rien à faire. Ça a été comme ça pendant des années. À 18 ans, moi, j'ai quitté l'école. Et en fait, j'ai rebondi avec le CNED. Donc là, eh bien, j'ai passé mon brevet en candidat libre. Je l'ai réussi avec mention. Ensuite, j'ai repris le CNED encore, toujours en autodidacte. J'ai passé le bac. Et ensuite, j'ai préparé une remise à niveau et mon concours d'école d'infirmière. Ensuite, j'ai fait ma formation d'infirmière. Et j'ai fait des tas d'autres formations où j'ai travaillé avec le CNED à mon rythme. Mmh. Et si on avait des soucis avec le CNED, on pouvait écrire, les professeurs vous répondaient, vous expliquaient.
Vous auriez dû commencer le CNED en CM2, en fait.
Eh bien, oui, mais c'était à mes parents.
Mais je sais, je rigole, Catherine.
J'ai même vécu une chose qui est très grave, c'est à l'âge de 16 ans, en cours de maths, parce que c'était une option qui était intéressante pour moi, parce que j'adorais les maths. J'avais toujours des notes en dessous de la moyenne, alors que j'avais toujours un travail excellent, qui était toujours à 17 ou 18. Mmh. Et quand je demandais des comptes au professeur, elle me disait « Mais mademoiselle, si ça ne vous convient pas, vous n'avez qu'à partir ».
C'est vrai, et là c'est intéressant, Arash, ce que dit Catherine, parce que finalement on peut pas toujours discuter avec les professeurs, on peut pas argumenter, on peut pas toujours se défendre quand on est un enfant, un adolescent, et on est surtout très vite catalogué.
Oui, vous avez absolument raison. Alors, on en a parlé tout à l'heure quand je parlais du collège ou du lycée. Lorsque vous avez beaucoup de professeurs, c'est un système qui se transforme en fait en une machine en fait à compresser. Et donc le système fait que on n'a pas le temps en fait de prendre ces cas isolés et de régler les problèmes parce que ça fait perdre du temps en fait pour les autres élèves entre guillemets, selon les professeurs ou selon la direction. Et ça pour moi c'est une erreur parce que Catherine qui était une élève forcément comme tous les autres enthousiaste, lorsque vous rentrez dans les cours d'école et dans les classes, vous avez cet appétit d'apprendre et de voir les autres et de s'ouvrir à ce monde. Et lorsque vous êtes humilié, lorsque vous êtes en fait harcelé, parfois même par des mots, et je le dis de façon très importante et ferme sur cette antenne, parfois on se rend pas compte des mots qu'on utilise. On l'a vu d'ailleurs avec Balance ton port ou MeToo sur cette affaire. Lorsqu'on utilise des mots parfois, on ne se rend pas compte l'impact qu'il peut y avoir dans la conscience ou l'inconscience de la personne qui est plus fragile.
Surtout des enfants, des
bien sûr, les enfants, pour moi, par principe, sont plus fragiles, évidemment, dans les faits, mais aussi dans le droit. Et vous voyez, on parle d'un événement qui a eu lieu il y a 45 ans. Mmh. Et Catherine s'en rappelle, voire même 50 ans. Et Catherine s'en rappelle. Donc tout mon respect, chère Catherine.
Merci Catherine d'avoir été avec nous sur France Bleu. On parle aujourd'hui du décrochage scolaire dans ce dito avec vos témoignages au 0810 055 056.
Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Que se passe-t-il dans la tête d'un enfant en échec scolaire quand il voit les appréciations sur son bulletin qui sont toujours les mêmes? Manque de travail, n'y arrive pas, n'a pas le niveau. On parle d'angoisse de l'école, pour certains ça va même jusqu'à la phobie, l'envie d'en finir avec l'école et puis parfois avec la vie tout court, parce qu'on met énormément de pression sur les épaules des enfants à l'école. Alors forcément, quand on n'est pas dans le moule, quand on ne rentre pas dans les rangs, ça dérange. Ça dérange les profs, ça dérange certains parents aussi. On parle de l'échec scolaire aujourd'hui dans On se dit tout. Et ça vous rappelle peut-être de mauvais souvenirs, à moins que vous soyez en plein dedans avec un de vos enfants. 0810 055 056 pour apporter votre témoignage en compagnie aujourd'hui de Arash Derambarche, auteur du livre « Tomber 9 fois, se relever 10 » aux éditions du Cherche Midi. Et nous sommes en Savoie chez Olivier. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Vanessa, bonjour Arash.
Bonjour.
On va parler de votre fille qui a connu des difficultés à l'école dès le CM2.
Même déjà plus tôt, dès le CP, c'était on sentait que voilà, c'était pas, alors on a tous un petit peu dire tiens, elle a pas le niveau, c'était compliqué pour les maths, c'était compliqué pour un petit peu tout. Et puis c'est vrai que plus on avançait en CE2, on s'est rendu compte que c'était quand même compliqué. Donc on avait pris rendez-vous avec la psychologue scolaire. pour pouvoir faire un petit peu un bilan sur notre fille. Alors, il faut dire que notre fille est vraiment très, très grande. Aujourd'hui, elle est, enfin, demain, c'est son anniversaire, elle va avoir 16 ans, elle fait 1m90.
Ah oui, très, très grande.
Et donc, à l'époque, elle en avait, elle faisait 1m70 quasiment. Donc, elle a toujours été très, très grande. Et la notation de la psychologue scolaire, c'est pas au CM1 parce qu'elle a vu sa taille. Voilà. Et c'est marqué noir sur blanc.
C'est une psychologue qui vous a dit ça.
Oui. Et ben, c'était marqué sur son bulletin, donc c'était pas son CM1 vu sa grande taille. Et là, nous, ça nous avait choqué avec mon épouse. Donc, on avait fait faire un bilan au CHU de Grenoble par une autre psychologue qui disait non, mais votre fille, elle va droit dans le mur, quoi. C'est pas possible.
Et ça a été le cas après ? La scolarité était compliquée ?
Ça a été le cas. Alors, elle est passée en CM1. En CM1, nous, on a demandé un redoublement parce que voilà. Et les deux professeurs, les deux maîtresses qu'elle a eues en CM1, CM2, c'est extraordinaire parce que vraiment, elles étaient attachées à ce que Cassandra puisse progresser dans son truc à elle. C'est-à-dire que c'était pas une course à la réussite. C'était au contraire, les autres font leur boulot et toi, on va être autour de toi.
On va prendre un peu plus de temps, s'il le faut.
Alors le problème, c'est qu'après aussi, on avait demandé une AVS parce que c'était un besoin qu'elle avait. On n'a jamais eu. Enfin voilà, c'est vrai qu'après, les portes autour se ferment. Alors l'éducation nationale, on a quelques bonnes références, mais c'est toujours, comme disait Arash tout à l'heure, on est toujours dans la course à la réussite en permanence. Et donc, heureusement que nous, on a eu des psychologues derrière au niveau du CHU de Grenoble qui nous ont énormément aidés. Donc, elle a pu rentrer en IME, ce qui l'a fait booster en avant. Et là, au jour d'aujourd'hui, elle a vraiment énormément évolué. Elle est rentrée directement en 5e après en SECPA, parce que justement, elle a été super bien entourée. Mais c'est hyper compliqué de se dire, les noms, on le voyait quand elle rentrait à la maison, on faisait les devoirs, c'était, on avait dit stop. On passe un quart d'heure dessus et après on arrête parce que la pauvre, elle voilà.
C'est important si le soutien des parents, enfin là on entend Olivier qui est un papa et on le sent impliqué. Impliqué, ça veut pas dire être tout le temps sur le dos de son enfant, c'est savoir écouter à un moment quels sont les besoins de l'enfant. Là on voit bien avec Olivier, ok, on fait un quart d'heure de devoir, ça sert à rien de faire plus, ça sert à rien de rabâcher. Le rôle des parents, vous en parlez pas beaucoup dans votre livre parce que vos parents, vous avez pas voulu trop les impliquer dans votre scolarité.
D'abord, bonjour à Olivier. C'est un témoignage très touchant. C'est vrai que je parle pas beaucoup de mes parents pour une raison très simple, c'est que je voulais pas. Je voulais toujours en fait les rendre fiers de moi. Je raconte dans le livre d'ailleurs que les trois fois j'ai signé à la place de mes parents, 6e, 4e et première.
Pour le passage à la classe
supérieure.
Oui,
ma mère en fait l'a découvert il y a quelques jours en fait à la sortie du livre que j'avais signé à sa place. Donc elle doit entendre cette émission en ce moment même et je la salue. Et c'est vrai que je voulais pas en fait leur briser le cœur, leur montrer que j'étais le cancre de la famille et mon frère jumeau était le meilleur tout le temps. Mais je voudrais juste raconter une anecdote à Olivier et à vous-même. Je parle de la seconde dans cette classe et je dis que la seule classe que je réussis vraiment, sans redoubler, sans signer à la passe de mes parents, mais vraiment par rapport à mes compétences et mon travail, c'est la seconde. Pourquoi ? Parce que j'assiste au conseil de classe. Et ma professeure de français, qui est Madame Guillaume, à qui je rends hommage, devant tout le monde, me soutient et m'envoie des bonnes ondes et me complimente. Non pas de la flatterie, mais des compliments. Ce qui est tout autre chose. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui est un référent pour vous, que vous voyez d'ailleurs plus que vos parents, parce qu'on passe plus de temps à l'école qu'à la maison, et qui vous dit devant vous, devant le directeur, devant tous les autres professeurs, cet élève, moi j'y crois, j'investis sur lui, il faut ne pas le lâcher, ça vous fait chaud au cœur. Et cet élève, cette fille en fait, la fille d'Olivier dont on vient d'avoir le témoignage, quand on dit qu'il y a un problème sur sa taille, ça s'appelle une discrimination, c'est un délit pénal. Et ça, c'est les tribunaux qui peuvent régler ce problème.
Merci beaucoup Olivier, un gros bisou à Cassandra pour ses 16 ans, puisqu'on a bien noté que c'était pour demain. À bientôt Olivier. 0810 055 056 pour encore un gros quart d'heure, on parle ensemble de l'échec scolaire sur France Bleu, avec vous qui l'avez vécu ou avec vous qui le vivez en ce moment avec vos enfants.
Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
Et on parle de l'échec scolaire aujourd'hui dans Se dit tout. En tant que parent ou en tant qu'ancien élève, venez nous rejoindre avec notre grand témoin, Arash Derambarche. Le décrochage scolaire, il connaît lui aussi, mais ça ne lui a pas empêché d'être avocat. C'était son ambition, son but quand il était petit. Il raconte son histoire dans le livre « Tomber 9 fois, se relever 10 » aux éditions du Cherche Midi. Et nous sommes en Seine-Maritime avec Alexandra. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Vous étiez une élève, comme on dit, moyenne, hein, juste, mais bon.
Juste.
Vous avez eu votre bac.
Oui, de justesse.
Mais oui, mais vous l'avez eu, c'est ce qui compte.
Et en fait, pourquoi moi je veux témoigner? Déjà, je vous remercie pour vos émissions de tous les jours, parce que je vous adore.
Merci.
De rien. Et puis en fait, c'est tout simple, moi. Donc j'étais toujours une élève moyenne qui avait des difficultés très jeune déjà en maths. Mes parents se sont débrouillés pour que j'ai 150 000 heures de soutien, ce qui n'a jamais marché. Et en fait, j'ai pris l'allemand, je ne sais pas pourquoi, comme ça, quand je suis arrivée au lycée. Et j'ai pris la décision, parce que je n'avais pas envie d'étudier, que l'allemand me plaisait, je vais partir en Allemagne. Et à l'époque, il fallait qu'on s'inscrive, pas sur Internet, mais je ne sais plus sur quoi, pour faire les études.
Sur moi, Minitel, non?
Ou je ne sais pas.
Peut-être un truc comme ça.
Minitel venait de sortir. Et moi, je me suis inscrite nulle part parce que j'ai dit non, je pars à l'étranger, je vais partir en Allemagne. C'était très rare à l'époque. La réaction, elle a été très rapide. Le directeur m'a commandé dans son bureau. Il m'a remonté les bretelles en me disant que je faisais l'erreur de ma vie, qu'une jeune fille comme moi, j'étais pas faite pour partir dans un pays où on parle allemand, que j'étais nulle en maths. L'allemand, c'est réservé aux scientifiques, aux gens logiques, tatati, tatata. Moi, je suis partie quand même. Au jour d'aujourd'hui, je suis bilingue, je parle même à côté de ça très bien anglais aussi. Je suis arrivée en Allemagne, les Allemands m'ont appris que, c'est hallucinant qu'une Française parle comme ça leur langue. On ne reconnaît même plus mon accent, est-ce français, est-ce que je suis une Française ou est-ce que je suis une Allemande au téléphone. Je suis revenue il y a 2 ans, mais une fois que j'avais passé mon bac, une fois que j'étais partie en Allemagne, j'ai grimpé très très vite les échelons, là-bas au niveau professionnel. Et je suis retournée dans mon ancien lycée au bout de 2-3 ans pour rendre visite à mon ancien directeur.
Et pour lui mettre les points sur les i.
Oui, et j'ai fait la totale. Je suis arrivée avec la BMW à l'époque, je m'en rappelle, le costume, le machin. Et il m'a dit « Ah, vous êtes revenue ?» Je fais « Ah non, non, non. » Et je lui ai mis ma carte de visite, ce que je faisais à l'époque. Et je lui ai fait un grand sourire et je lui ai dit que c'est pas en détruisant les élèves qui les encouragent. Et que quand on veut, on peut. Et que je suis le meilleur exemple. Et que je n'ai toujours pas compté aujourd'hui. Et c'est horrible, quoi.
C'est un beau témoignage, Arash, encore celui d'Alexandra.
Guten Tag, Alexandra.
Un petit coucou en allemand.
C'est très touchant, effectivement. Et ce qui prouve, en fait, que dans tous les témoignages que vous avez eus, Vanessa, c'est qu'il n'y a pas de fatalité sur le destin. Chacun peut y arriver. Il faut juste avoir son objectif et son rêve. Et se donner les moyens. Il y aura toujours une personne bienveillante qui vous tendra la main pour essayer de vous porter vers votre rêve. Et ça, c'est très important à comprendre.
Et puis, on laisse les gens plein de certitudes un peu de côté. Hein.
Il faut, de toute façon, le doute est permanent dans toute la vie. Il faut douter, de toute façon, parce que nous sommes tous des gens qui avons nos failles. Mais le rêve, ça veut dire quelque chose encore. Et il faut y aller. Ce sont les rêves qui permettent de pousser les murs, d'aller vers des conquêtes. Et de contribuer au bonheur aussi. Parce que c'est la finalité de tout ça, c'est le bonheur. Alexandra, elle a voulu aller en Allemagne parce que c'était son bonheur. Vous avez eu votre premier auditeur qui est devenu vigneron. C'était un rêve qu'il a eu, voilà. Et le bonheur, c'est aussi ça, c'est de se dire qu'on peut aller au-delà de la fatalité.
Merci beaucoup Alexandra. Dankeschön pour votre témoignage. Ich kann nur ein bisschen Deutsch sprechen, hein. Un tout petit peu, voilà. Et j'ai l'impression Alexandra, d'avoir retrouvé un petit peu mon histoire là-dedans. C'est rigolo. Merci Alexandra, on vous embrasse et on va terminer l'émission dans quelques instants. Dernier témoignage autour de l'échec scolaire qui n'est pas une fatalité. On vous attend comme chaque jour sur France Bleu.
Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
Et on parle de l'échec scolaire, des difficultés scolaires aujourd'hui dans On se dit tout avec vos témoignages et avec notre grand témoin, Arash Derambarche, auteur de Tomber 9 fois, se relever 10 aux éditions du Cherche Midi. Et avec Diane dans le Limousin pour terminer cette émission. Bonjour Diane.
Oui, bonjour.
Votre fils est en 3e, c'est un peu compliqué pour lui l'école et les profs ne l'aident pas, on va le dire comme ça.
Ah,
On va dire qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais le problème, je pense, que c'est que les profs se rendent pas compte de la portée des mots, comme le disait votre témoin, auprès des enfants, en fait. C'est-à-dire que mon fils a un rêve dans la vie, c'est de travailler dans l'informatique, c'est vraiment sa passion. Et au premier trimestre de cette année, comme il a 11 de moyenne générale, on lui a dit très clairement qu'il fallait choisir un plan B qui ne pourrait pas passer en seconde générale.
Waouh! C'est violent quand même, hein?
Oui, très. Parce que du coup, au lieu de le motiver à dire « je vais leur prouver le contraire », eh ben, et ses notes ont continué, enfin, ont diminué, quoi.
Bah oui, forcément. On lui est en train de lui dire « bah non, tu veux faire ça, tu vas pas le faire ».
Voilà.
Comment vous arrivez à l'accompagner, votre fils, dans son projet, dans sa scolarité?
Alors, on l'aide un maximum au niveau du travail à la maison. On fait de notre mieux. Il est suivi par rapport à son problème d'hyperactivité. Mmh. Et puis après, c'est beaucoup d'estime de soi, en fait, de renforcement de l'estime de soi.
Alors là, je vois qu'il est en troisième. Ça veut dire troisième, c'est les premiers stages. Est-ce qu'il a pu aller dans une boîte d'informatique, par exemple?
Alors absolument, on a pu lui trouver un stage dans une boîte d'informatique. Il fait du développement informatique et il s'est complètement épanoui pendant sa semaine de stage, quoi.
Bah ouais. Et là, on voit bien, Arash, c'est un petit peu le fils de Diane. C'est un petit peu vous à l'époque. Vous vouliez être avocat. Et si on vous avait dit, ah bah non, faut un plan B, ça sera pas possible. Vous êtes accroché. Il faut qu'il fasse pareil.
Bonjour Diane. Je raconte une scène similaire en troisième. Le principal de mon collège vient nous remettre les livrets de notes pour la troisième et nous orienter pour la seconde. Et on me demande de signer une feuille pour aller en BEP, que je respecte, sauf que je voulais devenir avocat. Et je demande en fait à mon proviseur, est-ce qu'avec cette feuille, en la signant, je peux devenir avocat? Il m'a dit, signe d'abord, on verra ensuite. Mmh. À l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Google. Donc je rentre à la maison. Je dis à mes parents, est-ce qu'avec ça, je peux devenir avocat? On me dit non, parce que ça, c'est un bac pro. Donc, je reviens le lendemain et je lui déchire. Je lui dis non, moi, je veux devenir avocat. Ce que vous me proposez ne m'amènera pas vers mon objectif et mon rêve. Et ce que je veux dire, en fait, à votre fils, ma chère Diane, c'est que s'il a un objectif, qu'il n'écoute personne et qu'il se focalise uniquement sur son objectif. Voilà. Et si les gens ne sont pas contents, bah, ils vont devoir s'adapter.
Il y a tellement d'enfants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Là, on a la chance, Diane, il a son fils, il sait exactement ce qu'il veut faire.
Pardon, je me permets juste de vous dire ça. Tout le monde sait ce qu'il veut faire. Chacun a des rêves. Simplement, on ne les valorise pas et
oui,
on n'écoute pas les rêves.
Ouais. Mais là, en l'occurrence, Diane, il va falloir l'accompagner, aller jusqu'au bout.
On vous aidera. Si vous avez besoin d'aide, je serai là, Diane.
Ouais. Et puis, on peut peut-être envoyer à vos professeurs, aux professeurs de votre fils, le livre de notre
dédicacé.
Grand témoin. Tomber 9 fois, se relever 10. C'est un livre qui fait du bien parce qu'on a tous eu, à un moment donné, des moments un petit peu plus compliqués à l'école. Vous, ça a été vraiment très compliqué, hein, on peut le dire, effectivement. Mais j'ai envie de lire un passage de votre livre qui est vraiment très touchant. Vous dites, j'ai pourtant redoublé 9 fois et raté mon brevet des collèges, mais je n'ai pas douté car j'étais focus sur mon objectif. À tous ceux qui liront ce texte, ne lâchez jamais vos rêves, ne baissez pas les bras et gardez espoir. Ah ben voilà, mais je vous fais pleurer en plus. Mince, alors je voulais pas finir l'émission comme ça avec vous, mais c'était vraiment aussi pour le fils de Diane et pour tous ceux qui nous écoutent, ne lâchez pas vos rêves. Merci Arash Derambarche d'avoir été notre grand témoin sur France Bleu. Je vous conseille vraiment ce livre, Tomber 9 fois, se relever 10. C'est aux éditions du Cherche Midi. Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la réécouter bien sûr en podcast sur notre site francebleu.fr. On se dit tout, revient demain avec une autre thématique. Vous savez, chaque jour, on ouvre une petite fenêtre. On parlera demain de la crise de la quarantaine. Ça n'arrive pas qu'aux autres et parfois ça peut être très très violent. Ce sera demain sur France Bleu dans On se dit tout, bonne journée.